Alors, si vous vous rappelez, quand le professeur Henri Blocher est venu ici, il y a quelques semaines, mois peut-être, il est venu dans notre église et puis il a parlé de Jean 4, la femme samaritaine, et il a fait cette relation entre les samaritains et les musulmans. Et j'ai trouvé ça remarquable. J'ai pas l'adjectif, mais voilà, j'ai trouvé ça super. Et surtout, ça m'a fait penser à pas mal de choses. Et en particulier, effectivement, la manière dont les Samaritains sont traités, en particulier dans les évangiles. Donc, il y a plusieurs références aux Samaritains, en plus de la femme samaritaine. Il y a les disciples, par exemple, hein, qui veulent faire tomber le feu du ciel pour réduire en cendres le village des Samaritains qui ne voulaient pas recevoir Jésus. Pas hyper cool, heureusement que Jésus est intervenu. Il y a aussi un moment donné dans Jean 8 où Jésus va dire aux Juifs, il va dire, en fait, vous avez pour père le diable. Si vous me connaissiez, ben, vous sauriez que je suis de la vérité, vous avez pour père le diable. Et donc, pour se répondre, ils font pas un miroir magique, ils lui disent, est-ce qu'on n'a pas raison de dire que tu es un Samaritain? Et que tu as un démon. Donc, je veux dire le niveau d'ambiance quand même hein, qu'il y avait. Donc, les Juifs et les Samaritains, c'était pas foufou, c'était pas foufou du tout. Et puis, il y a aussi cette parabole du bon Samaritain qui tranche un petit peu avec tout le reste. Et c'est de cette parabole que j'ai envie de vous parler ce matin. Et j'aimerais vous la présenter sous un angle qui est un peu différent de ce que l'on a l'habitude d'entendre, ou plutôt de la conclusion qu'on veut en donner de manière générale. Et avant ça, je vous propose de prier. Père, on veut faire appel à ton esprit pour nous enseigner et je prie que chacun de nous puisse recevoir de ta part une parole spécifique, quelque chose de ciblé, quelque chose qui lui fasse du bien, qui le console, qui le relève, qui le guérisse, qui illumine les yeux de son cœur, qui lui fasse ressentir ta présence. Amen. Alors je vous propose de lire justement cette parabole dans son contexte. Ça se trouve dans Luc au chapitre 10. Je me suis fait reprendre la semaine dernière parce que j'ai dit pour les bons élèves qui ont leur Bible. Bon, donc je ne le dis pas aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont leur Bible. Vous pouvez le suivre, c'est à partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais ceci et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, pars pas comme ça, c'est pas si facile, et c'est qui mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et le laissèrent à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, il le conduisit à l'hôtellerie. Et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à Lot et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Et concernant l'interprétation justement de cette parabole, il faut savoir que l'Église a évolué. L'Église avec un grand E majuscule et tout ce que vous voulez, a évolué. C'est-à-dire que, à un moment donné, Jean Calvin a dit « Voici l'interprétation qu'il faut avoir », qui était un petit peu différente, ou plutôt qui résumait un petit peu, ou synthétisait un petit peu, ce que d'autres pères de l'Église avaient interprété vis-à-vis de cette parabole. C'est intéressant. Et en fait, on a hérité aujourd'hui de cette conclusion-là que je vais vous donner, et vous verrez que très probablement c'est la même chose que vous pensez en lisant cette parabole, que nous pensons en lisant cette parabole. Donc Jean Calvin écrit, on voit ici la miséricorde qu'un ennemi a fait à un juif, a faite à un juif. La nature enseigne que l'homme a été créé pour l'homme, d'où il s'ensuit une obligation mutuelle entre tous les hommes. Donc en gros, le message qu'on retient en lisant cette parabole en général, c'est quand Jésus dit « va et toi fais de même », ça veut dire que le devoir du chrétien, c'est de venir en aide à tous. C'est la compassion universelle. Tes actes de compassion, en quelque sorte, c'est la preuve de ta foi. Et c'est juste. C'est quelque chose de juste. D'ailleurs, l'apôtre Jacques, dans son épître, au chapitre 2, dit « Mes frères, à quoi sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc Calvin a tout à fait raison de dire que le devoir du chrétien, c'est d'aider son prochain. Mais je crois que cette parabole, elle a une portée encore plus profonde que ça. On pourrait en fait arriver à la conclusion que, ok, je l'ai lu, très bien, ok, je vais aider mon prochain. D'ailleurs, voilà, certains pans chrétiens orientent même vraiment l'évangile vraiment sur l'aide. Hein, et c'est une bonne chose, je ne mets pas ça en question. Mais ce que je dis, c'est que je crois que Jésus racontait une toute autre histoire. Et pour comprendre justement cette histoire, il nous faut remarquer le déroulement de ce qui vient de se passer, parce que c'est important. Le contexte est vraiment, vraiment très important. Donc, je la refais sans lire le texte. Okay. Donc, on a un homme religieux, un expert de la loi, qui se lève un jour, qui va voir Jésus, et qu'il veuille le tenter ou non, il est dit qu'il veut l'éprouver, il lui pose une question très importante. Il lui pose même la seule question qui est importante. Finalement, pour nous, en tant qu'êtres humains, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ça concerne donc vraiment chacun de nous. Et je pense que Jésus a pris cette question au sérieux, c'est-à-dire qu'il a voulu répondre à cette question. Et comme il s'agit d'un docteur de la loi, eh bien, Jésus fait quoi? Mais il le renvoie à la loi. Il lui dit, ok. Un peu comme il a fait d'ailleurs avec Nicodème, hein, où Vous vous rappelez, il dit, tu es docteur de la loi et tu ne sais pas ces choses, tu devrais savoir ces choses. Il lui fait un peu la même chose. Il dit, ok, il y a écrit quoi dans la loi pour savoir ce que tu dois faire pour être sauvé? Alors, comme c'est un docteur de la loi, il connaît, il est très au courant des choses. Il dit, il faut aimer Dieu, de tout son cœur, toute son âme, etc. Et il faut aimer son prochain comme soi-même. Le « et » est intéressant parce que ce n'est pas dans le même verset, en fait, hein, c'est deux passages différents. Mais il y a bien une synthèse qui est faite du temps des Juifs sur « il y a quelque chose de capital là-dessus ». Aimer Dieu, aimer son prochain. Donc Jésus, lui dit « finalement pourquoi tu es venu me poser la question puisque tu le sais ?» Alors il ne le dit pas comme ça, il lui dit « dans ce cas-là, fais ça et tu vivras ». Et c'est là que le bât blesse. Je pense que Jésus, forcément, il a touché, j'ai dit, je pense que Jésus a touché juste, il touche toujours juste, donc forcément Jésus a touché juste. Mais le docteur de la loi, je crois, se sent repris dans sa conscience. D'ailleurs, dans 1 Jean 4, l'apôtre Jean dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment est-ce qu'il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alors, on voit que la réponse de Jésus ne convient pas du tout au docteur de la loi, qui justement se sent repris, c'est pour ça qu'il est dit, lui cherchant à se justifier. Donc il est bien repris dans sa conscience. Il dit, ok, alors qui c'est mon prochain? Moi je veux bien savoir, ok, Je veux bien aimer mon prochain, mais déjà mon lointain, pas trop, mon prochain peut-être, mais déjà il faut définir ce que c'est, mon prochain. Alors c'est qui? Il se trouve que Jésus savait effectivement la haine des Juifs pour les Samaritains. Et je pense que c'est pour ça qu'il a prévu de faire du héros de cette parabole un bon samaritain, justement pour le confronter encore plus, pour confronter ce docteur de la loi. Donc il reprend toute cette parabole, et une fois qu'il a pris toute la parabole, il lui pose la question: qui a été le prochain de celui qui s'est fait agresser par les brigands? Et quand je dis que les Juifs n'aiment pas les Samaritains, vous remarquerez que le docteur de la loi ne répond même pas: c'est le Samaritain. Il dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Il ne faut pas que ça sorte de sa bouche, vous voyez. Intéressant. Et Jésus termine par, va, et toi fais de même. Donc, je tricote un peu, mais c'est vrai qu'on doit... C'est tout à fait juste d'aimer chaque être humain. Je ne remets pas du tout ça en question, mais... Je pense que ce n'est pas en s'appuyant sur cette parabole qu'on va dire, d'après cette parabole, il faut aider chaque être humain. Parce qu'en fait, Jésus est en train de raconter une histoire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande. Une histoire qui nous dépasse tous. La question c'est, que dois-je faire pour être sauvé? La réponse c'est, aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Et qui est mon prochain? C'est alors que pour répondre à la question, Jésus va répondre à la question « qui est mon prochain ?» J'espère que vous suivez. Il donne cette parabole et il pose lui-même une question qui va donner la réponse à cette question précédente. C'est comme ça que font souvent les Juifs. Hein. Tu me poses une question, je te réponds par une autre question, et si tu as trouvé la réponse à cette deuxième question, tu as trouvé la réponse à la première. Levez la main si je vous ai perdu. C'est bon? Ça va? On y arrive. Donc, cette parabole, la réponse de cette parabole n'est pas mon prochain, c'est l'homme qui s'est fait agresser. Il n'y a que trois choix dans cette parabole que Jésus a faite. Qui est mon prochain? Est-ce que c'est A, le sacrificateur, B, le lévite, ou C, le bon samaritain? Vous voyez, souvent on prend cette parabole et on se dit, ok, je dois aider le bon samaritain, je dois aider l'homme qui s'est fait agresser, je deviens le bon samaritain, et donc Je dois aider mon prochain c'est celui qui s'est fait agresser. Mais ce n'est pas du tout la question que pose Jésus. Jésus dit, parmi les trois que j'ai cités, lequel est le prochain de celui qui s'est fait agresser? C'est là que ça change tout. Donc, je reformule une dernière fois la question. Qui est le prochain que je dois aimer comme moi-même pour être sauvé? Qui est le prochain que je dois aimer comme moi-même pour être sauvé? Et Jésus répond à cette question en donnant une parabole et en lui disant, ok, qui est le prochain qui a sauvé celui qui s'est fait agresser par les brigands? Qui est celui qui est intervenu? La réponse, j'espère que vous l'avez quand même, la réponse, c'est celui qui a exercé la miséricorde, c'est le bon samaritain. Même le docteur de la loi l'avait celle-là, donc vous l'avez aussi. Et ce à quoi Jésus dit, va et fais de même. En d'autres termes, pour être sauvé, il te faut aimer Dieu et ton prochain comme toi-même. Et le prochain que tu dois aimer comme toi-même pour être sauvé, c'est le bon samaritain. De même que l'homme sur la route qui s'est fait agresser, il a aimé le bon samaritain, toi aussi fais de même et aime ce bon samaritain comme toi-même. Donc ce que je soumets à votre jugement, c'est que Jésus est en train de dire au docteur de la loi, le bon samaritain, c'est moi. Et si tu veux être sauvé, aime-moi comme toi-même. Et cette interprétation, elle me semble d'autant plus intéressante que dans cette parabole, Jésus réussit un tour de force. C'est-à-dire qu'en 6 versets, il va brosser le tableau complet de toute son œuvre rédemptrice, de tout l'évangile, depuis Adam jusqu'à son retour. Donc, Luc 10, 30, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups, s'en allèrent et le laissèrent à demi-mort. Jésus est en train de décrire la chute et tous ses effets. L'homme, il vient d'où ? Il vient du jardin d'Éden, représenté par Jérusalem. Il est chassé de ce jardin d'Éden. Il va où ? Il va à Jéricho. Jéricho, c'est le symbole de la malédiction et de la mort. Il a quitté le jardin, il est soumis maintenant au péché et à la mort, et il va vers Jéricho. Et puis il tombe entre les mains des brigands. Les brigands, ça représente le diable, le voleur qui vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10. Et l'homme se retrouve dépouillé, donc nudité, honte, pauvreté. Il se trouve chargé de coups qui représentent les souffrances, la maladie, la mort. Et il est laissé à demi-mort. Je trouve ça super intéressant. Il est laissé à demi-mort. Oui, son corps est encore vivant, mais son esprit est complètement coupé de Dieu. Il est à demi-mort. Une partie de lui est morte. Luc 10, verset 31, 32. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Qui peut sauver cet homme-là? Cet homme qui représente Adam, qui nous représente tous, qui représente toute l'humanité. Qui peut sauver cet homme-là? Certainement pas le sacrificateur qui passait par hasard. Il n'a pas été envoyé pour ça. Il n'était pas missionné pour ça. Il est là par hasard. Et le sacrificateur, ça va bien évidemment symboliser quoi? Ça va symboliser tous les efforts de l'être humain pour être sauvé au travers de la religion, au travers des efforts, au travers des sacrifices personnels. Et Jésus est en train de dire, c'est pas ça qui sauve. Et puis ensuite, il y a le lévite. Alors le lévite, qu'est-ce que ça représente? Parce que c'est très proche du sacrificateur. Le lévite, c'est la tribu des lévites, c'est un lévitique, donc un de la tribu de Lévi. C'est ceux qui, par leur droit de naissance, ont droit, effectivement, à aller vers Dieu, pour devenir des lévites et pour travailler auprès de Dieu. Donc pour moi, ça représenterait finalement le droit de naissance, ça représente la petite chance, ça représente le petit plus qu'on a donné, les événements positifs. Est-ce que je vais être sauvé parce que, ah super, d'un coup j'ai gagné au loto? Est-ce que je suis sauvé parce que, ça tombe bien, je suis tombé dans la bonne famille? Est-ce que je suis sauvé parce que justement j'ai entendu le bon message? Une fois de plus, c'est pas les événements de la vie, positifs en particulier, qui vont pouvoir faire quelque chose pour toi. Tant mieux si tu en as, mais c'est pas là pour toi. Verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il est dit que le Samaritain voyageait, en opposition à « il était là par hasard ». Il voyageait, et je vous rappelle qu'à l'époque, on ne voyageait pas pour faire du tourisme. C'est récent ça. Si on voyageait, c'est parce qu'on avait un but précis. Je vais aller là, parce que j'ai quelque chose à faire. Donc le « il voyageait » veut dire que le bon Samaritain a une mission, qu'il est là pour quelque chose. Jésus a été envoyé sur terre dans un but précis. Et puis il est dit « il fut ému de compassion ». Tu en as parlé tout à l'heure, Nathalie. Ce mot-là, « ému de compassion », dispense de l'entendre sorti de ma bouche en grec. Il est très long en plus. Ça veut dire littéralement « remuer dans ses tripes ». Ému de compassion. Il est remué dans ses tripes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce mot-là, il est utilisé 12 fois dans la Bible. Les 12 fois, c'est uniquement dans les évangiles. 11 fois, c'est attribué à Jésus. Et la 12e fois, c'est dans cette parabole. C'est pour ça que je crois que ça touche. Ça parle vraiment de Jésus. Verset 34, « Il s'approcha. Il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. » Jésus s'est approché de nous, c'est lui qui a quitté son ciel pour nous sauver. C'est lui qui a pris soin de nous. C'est lui qui a bandé nos plaies en y versant de l'huile et du vin. L'huile, c'est le symbole de l'œuvre de l'Esprit, en particulier à la nouvelle naissance. On peut penser aux vierges folles, aux vierges sages. C'est l'huile des vierges sages qui leur ont permis d'aller à la rencontre de l'époux. Et puis l'huile, ça symbolise aussi l'unité entre les frères et sœurs. On le voit dans le psaume 133 en particulier, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui descend sur la barbe, qui descend sur la barbe d'Aaron. Le vin, c'est aussi l'action de l'esprit, en particulier mentionnée dans les Écritures, au moment du baptême du Saint-Esprit. Et on voit cette relation, par exemple, dans Éphésiens 5, où il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis de l'Esprit. » Et puis, bien évidemment, ce passage dans Actes 2, où le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte, où les gens croyaient que Pierre et les apôtres étaient ivres, justement. Et Pierre dit « Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, c'est la troisième heure du jour, c'est-à-dire c'est 9h du matin, il ne faut pas exagérer quand même. » Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. » L'huile, le vin et la monture du bon Samaritain. Là aussi, on peut l'interpréter comme le Saint-Esprit, le paraclet, qui littéralement veut dire celui qui est appelé à l'aide. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous soutenir et qui nous porte jusque dans l'hôtellerie. L'hôtellerie qui va représenter l'Église. L'Église dans laquelle à la fois l'hôte, l'hôte va prendre soin de nous, c'est-à-dire à la fois le Saint-Esprit, mais aussi le corps de Christ va prendre soin de chaque perdu qui est sauvé. Luc 10, 35, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de moi, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Pour interpréter les 2 deniers, On sait que par l'évangile de Jean, que, pardon, par l'évangile de Matthieu, que un denier correspondait à une journée de travail. Donc on peut en déduire que le bon samaritain est arrivé, qu'il a laissé cet homme-là, et puis il lui a payé 2 deniers. Et il a dit, et puis s'il y a plus, quand je reviendrai, je te donnerai plus. Mais au moins 2 deniers. Au moins 2 jours. Vous me voyez venir, hein? L'apôtre Pierre, il dit, pour le Seigneur, un jour c'est comme 1 000 ans. 1 000 ans c'est comme un jour. Peut-être que Jésus a voulu dire, je vais revenir, ça va prendre au moins 2 000 ans. Peut-être plus. S'il y a besoin de plus, je paierai plus. Parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais revenir. Donc maintenant, si Jésus c'est le bon samaritain, alors celui que je dois aimer pour être sauvé, c'est lui. Peut-être que la question qui reste maintenant, c'est de se dire, ok, ça veut dire quoi concrètement d'aimer Jésus? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus à ce sujet? Dans Jean, par exemple, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il dit un peu plus loin, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, au cas où on n'ait pas compris. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Donc il y a le fait, effectivement, de vouloir entendre la parole de Christ, de vouloir la garder, de vouloir la suivre. Dans Jean 8, il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors de quelle parole est-ce qu'il parle? C'est quoi ce commandement dont Jésus parle? Jean 13, tout ça c'était dans Jean, hein? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et il rajoute dans Jean 15, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc aimer Jésus, c'est recevoir son secours, c'est-à-dire me laisser guider par le bon samaritain, accepter qu'il puisse venir me sauver. C'est me laisser porter par son esprit, je me laisse mettre sur sa monture, et puis garder sa parole jusqu'à son retour, à savoir l'aimer et aimer les autres, comme j'ai été aimé par Jésus, parce que j'ai été aimé par Jésus. Dans Matthieu, il est dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est-à-dire donner à boire, vêtir, visiter, accueillir, donner à manger, etc., à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc Jésus a terminé sa discussion avec le docteur de la loi en lui disant, va et toi fais de même. Donc aime Jésus, aime-moi. Et on peut dire que comme Jésus a été mon prochain, moi aussi je peux être le prochain pour les autres, pas pour gagner la vie éternelle, hein, mais parce que le bon samaritain me l'a déjà donné. Donc aujourd'hui, si tu es sur cette route blessé, peut-être incapable de te sauver, le bon samaritain s'approche. Il te voit, il a payé le prix, reçois-le, aime-le. Et puis va, et fais de même. Merci.